Aujourd'hui donc, nous recevons le docteur Serge Stoléru. Le docteur Serge Stoléru est chercheur, chargé de recherche sur les comportements sexuels à l'unité 483 de l'INSERM, Université Pierre et Marie Curie. Il a consacré ses travaux de recherche à quatre domaines différents, avec la psychanalyse à chaque fois comme fil directeur. Tout d'abord, la psychologie et la psychopathologie du nourrisson et des interactions parent-nourrisson, les facteurs psychologiques de l'infertilité, la méthodologie du recueil et de l'analyse des données en psychopathologie, enfin l'étude des corrélats cérébraux du désir sexuel. Parmi ses publications, il a publié Psychothérapie mère-nourrisson dans les familles à problèmes multiples aux presses universitaires de France en 1989. Et il est également co-auteur de trois ouvrages, Le nourrisson, la mère et le psychanalyste aux éditions Le Centurion en 1983, abrégé de psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant chez Masson en 1988. J'en avais annoncé trois, mais en fait, il n'y en a que deux. Voilà, donc, docteur Serge Stoléru, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes. Je vous remercie.
Merci. Bien, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je vous remercie beaucoup de l'affluence importante qu'il y a aujourd'hui, parce que je dois dire qu'au début, quand j'ai commencé à travailler sur la thématique des comportements sexuels, ça n'a pas été très facile. Je me suis heurté au départ à pas mal de difficultés qui tenaient finalement, je crois, au caractère un petit peu nouveau pour la communauté scientifique de cette thématique. Et vous savez que finalement, bien qu'au fond on soit aujourd'hui au XXIe siècle, je crois qu'il y a encore beaucoup de tabous qui entourent ce domaine. Je vais essayer un petit peu de vous introduire ce thème donc, de la compréhension des bases cérébrales du comportement sexuel. Au fond, le comportement sexuel, en général, finalement, quand on fait des cours particuliers dans le cadre de l'éducation sexuelle aux enfants, finalement, on se centre très souvent sur les organes génitaux externes ou alors sur les organes génitaux internes, sur des phénomènes reproducteurs. Mais certains éducateurs disent un petit peu plaisamment, finalement, que l'organe sexuel le plus important, c'est celui qui est entre les deux oreilles, c'est-à-dire, finalement, donc le cerveau. Cette thématique du comportement sexuel, je vous ai dit combien il m'avait été difficile au départ, finalement, de la faire accepter. Et pourtant, elle est fondamentale si on se place d'un point de vue éthologique, puisque selon les recherches en éthologie, finalement, les grandes fonctions du comportement, c'est trouver de la nourriture, hein, je parle là du comportement animal, mais il nous intéresse aussi, trouver de la nourriture, trouver une niche écologique, échapper aux prédateurs et trouver un partenaire ou une partenaire sexuelle. Le comportement copulatoire, en fait, chez l'animal, n'est que le point culminant de toute une série de stades préalables où, à chaque fois, le cerveau est impliqué. Ces stades préalables, en général, on les appelle l'état d'excitation sexuelle. Et cet état d'excitation, finalement, c'est un état à la fois psychique et physique qui rend l'individu prêt à exécuter, à mettre en œuvre ce comportement sexuel. Alors, cet état d'excitation sexuelle est en relation avec des facteurs internes, en particulier hormonaux, notamment chez l'animal, et puis des facteurs externes qui tiennent aux stimulations, aux afférences qui viennent de l'environnement de l'individu. Alors, il y a un concept un petit peu voisin de celui d'excitation sexuelle, qui est celui d'excitabilité sexuelle, c'est-à-dire ce concept d'excitabilité, ça définit la propension d'un individu à un moment donné à rentrer dans un état d'excitation sexuelle en fonction d'un stimulus ou de plusieurs stimulus dans l'environnement. Alors, ce qui est un petit peu nouveau dans ce domaine, c'est qu'il y a eu pas mal de développements dans le domaine de la psychologie évolutionniste qui amène à penser que la sélection naturelle, finalement, a sélectionné dans le cerveau des systèmes qui font que le comportement sexuel est une source de plaisir pour l'individu, mais pas seulement d'ailleurs le comportement sexuel donc copulatoire, là, mais également la phase qu'on appelle appétitive, c'est-à-dire la recherche du ou de la partenaire sexuel. Donc le cerveau, finalement, par le biais de la sélection naturelle, ces problèmes ont construit pour aboutir finalement à ce que l'individu rentre dans cet état particulier, rentre dans le comportement de copulation et transmette ses gènes à la génération suivante. Alors, je vous disais que le cerveau est probablement impliqué dans tous les stades du début jusqu'à la fin du comportement sexuel. L'un des premiers stades, finalement, c'est le traitement cognitif des stimuli de l'environnement. Finalement, on sait bien que tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes stimuli, puisque je reprends ce terme, hein, c'est-à-dire que finalement, ce qui est générateur d'excitation sexuelle pour un individu ne l'est pas forcément pour un autre, et il n'y a rien de plus variable, finalement, que l'objet qui génère cet état. Donc ça suppose très probablement que le cerveau soit impliqué dans ce traitement des stimuli externes, finalement, des objets, comme on dit en psychanalyse, qui vont être générateurs de ces états d'excitation sexuelle. Donc déjà là, il y a probablement des opérations cérébrales qu'il faut arriver à comprendre et à définir. Si on prend les études chez l'animal, on sait par exemple que chez les singes, des caractéristiques des femelles telles que l'odeur ou des signaux visuels sont traités par le cerveau et favorisent un comportement sexuel. Et ces caractéristiques sont évaluées à travers le traitement cérébral, donc central, d'une information sensorielle. Chez les êtres humains aussi, l'attirance sexuelle est basée sur beaucoup de facteurs et ces facteurs doivent être évalués pour qu'une réponse sexuelle se développe. Chez l'homme, il y a des facteurs probablement beaucoup plus développés que chez les animaux. Ce sont les facteurs motivationnels, c'est-à-dire en particulier la perception consciente du désir sexuel, et puis des facteurs émotionnels, affectifs, avec toute cette dimension de plaisir attachée à la sexualité. Là aussi, il est plus que vraisemblable que le cerveau intervient pour générer chez l'individu, d'une part, ce sentiment, cette perception d'un désir sexuel, et d'autre part, cette perception affective des sentiments et du plaisir qui vont avec ce comportement. Alors, il faut bien dire que, jusqu'à présent, finalement, la plupart des connaissances sur le cerveau, sur tout ce que je vous ai dit, et dans son rapport à la sexualité, étaient basées sur des études chez l'animal. Il y a eu beaucoup d'études, en particulier chez les rats, mais il est clair que l'on ne peut pas se contenter, si l'on veut comprendre le comportement sexuel humain, d'études chez l'animal, puisque, comme je vous le disais à l'instant, il y a dans le comportement sexuel humain des caractéristiques qui sont tout à fait spécifiques et qu'on ne pourra sans doute jamais comprendre si l'on se contente d'études chez le rat ou même chez le singe. Alors, sur la diapositive suivante, je vous ai présenté l'équipe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, en particulier un étudiant en doctorat qui est Jérôme Redouté, et toute une équipe donc, qui est basée au CERMEP, donc, qui est un centre d'études et de recherche médicale par émission de positons qui est situé à Lyon, qui est dirigé aujourd'hui par Jean-François Pujol, donc, qui a eu, je dirais, ce courage finalement intellectuel d'accueillir un thème qui est un petit peu, je dirais, difficile, un peu, entre guillemets, chaud. Et puis, il avait été précédé par Dominique Comard, à qui aussi je dois beaucoup pour l'accueil donc, qu'il a bien voulu réserver à ce travail. Quant à Alfred Spira, il a été également tout à fait important dans le développement de ses travaux et qui ont été beaucoup encouragés par son attitude. Bien, on va passer à la diapo suivante. Donc là, je vous ai résumé un petit peu un certain nombre de connaissances qui ont été acquises chez l'homme avec des techniques un petit peu plus grossières que ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale, mais qui avaient déjà fourni un certain nombre d'éclairages. On avait vu avec déjà l'électroencéphalographie, donc une technique très, très banale, hein, que probablement le lobe temporal droit était impliqué dans l'excitation sexuelle, simplement en faisant des électroencéphalogrammes chez des personnes en train d'observer des photographies à contenu sexuellement explicite. Il y avait eu aussi une étude finlandaise basée sur une technique d'imagerie qu'on appelle le SPECT, qui est une technique un petit peu plus grossière que les techniques dont je vais vous parler maintenant, mais qui avait montré que, en fait, dans l'ensemble du cerveau, au moment de la phase de l'orgasme, il y a une réduction du débit sanguin cérébral dans toutes les régions, sauf dans la région préfrontale droite, donc la partie antérieure du lobe frontal du côté droit. Plus important, peut-être, il y a ce que nous a appris l'épileptologie. Il y a chez certains sujets qui font des crises épileptiques des comportements sexuels. C'est quelque chose de rare, mais ça a l'intérêt de pointer quelle région du cerveau pourrait être en relation avec la sexualité. Alors, il y a par exemple des crises où le sujet va avoir des sensations génitales des deux côtés, et en plus, il va y avoir des manifestations affectives en même temps, de la peur ou du plaisir. Et dans ces crises-là, les épileptologistes ont montré que c'était les régions temporales, donc à nouveau, on retrouve ces régions temporales qui étaient impliquées, et en particulier des régions à l'intérieur du lobe temporal, très profondes, notamment ce qu'on appelle les amygdales cérébrales et la région hippocampique. Il y a d'autres crises épileptiques avec comportement sexuel. Cette fois-ci, les manifestations sont plus affectives ou sensitives, comme dans les premières, mais elles sont motrices. Et on voit des patients qui saisissent leurs organes génitaux, qui peuvent commencer à avoir des mouvements de poussée pelvienne, et donc du bassin, et ces crises semblent en relation avec un point de départ qui est dans ce qu'on appelle le cortex singulaire. Je vous montrerai tout à l'heure des images de ce cortex singulaire. C'est une espèce de ceinture, singulaire ça veut dire ceinture, qui est située au-dessus du corps calleux, donc qui est une bande de substance blanche qui unit les deux hémisphères cérébraux. Donc c'est une région très profonde à la face interne des hémisphères cérébraux. Il y a eu aussi chez les êtres humains des données qui ont été apportées par des lésions de la pathologie ou des lésions occasionnées par des interventions neurochirurgicales. Et il y a même eu, dans des cas d'épilepsie rebelle au traitement, un cas où les chirurgiens avaient enlevé tout le lobe temporal des deux côtés, et en particulier la partie interne, donc les amygdales cérébrales, et les hippocampes. Et ce malheureux patient, en fait, s'est ensuite retrouvé avec une hypersexualité, avec l'apparition d'une masturbation face à autrui, l'apparition d'un comportement homosexuel alors qu'il était exclusivement hétérosexuel avant. Il y a eu donc une sorte de désinhibition de son comportement sexuel après ablation des lobes temporaux. Alors ça, c'est important parce qu'on sait que lorsque cette intervention-là est faite chez le singe, il se produit exactement la même chose, c'est-à-dire l'apparition d'une hypersexualité extrêmement impressionnante. Toujours les neurochirurgiens, en faisant ce qu'on appelle des lobotomies frontales, ont également montré que dans beaucoup de cas, il y avait l'apparition d'une désinhibition dans le domaine sexuel. Vous savez aussi peut-être qu'en Allemagne de l'Ouest, à une époque, dans les années 60, pour essayer de résoudre les problèmes posés par les auteurs d'agressions sexuelles, soit sur les enfants, soit sur les adultes, donc les problèmes de viol, il y a eu des interventions faites sur l'hypothalamus, puisque chez l'animal, l'hypothalamus est très impliqué dans le comportement sexuel. Alors ces patients, en fait, disaient ensuite avoir une réduction de leur comportement sexuel et en plus une réduction de leur désir sexuel. Parce qu'on peut avoir une réduction de son comportement sans avoir une réduction de son désir. Ils prétendaient, ils disaient en tout cas, avoir une réduction. En fait, c'est des interventions qui sont très difficiles à interpréter parce qu'il est clair que le fait d'avoir subi l'intervention en elle-même a évidemment un effet très fort en placebo, pas seulement à cause de la destruction encéphalique. Et on peut un petit peu mettre en doute les conclusions, les interprétations de ces travaux, mais enfin, ils sont importants quand même à citer. Voilà, alors ce qui a été nouveau, c'est l'apparition au cours, en particulier des années 80, de techniques nouvelles qu'on appelle donc l'imagerie cérébrale. Et celle dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons, je dirais TEP pour aller un petit peu plus vite, qui ont permis d'avoir une vision chez l'individu sain, en dehors de toute intervention, disons, chirurgicale, du fonctionnement des différentes parties du cerveau. Si vous avez assisté aux conférences de Mazoyer en particulier, il a dû beaucoup vous parler de la tomographie de la TEP. Je reviendrai bien entendu. Alors, ce que nous avons essayé de faire avec la TEP, c'est d'imager, donc de montrer quelles étaient les régions du cerveau qui s'activaient, qui se mettaient à travailler lorsqu'un individu en bonne santé, de sexe masculin dans ces études-là, réagit à des stimuli sexuellement explicites, visuels. Et ce qu'on a commencé à faire aussi, je vous en dirai un petit mot à la fin, c'est d'étudier la même chose, mais chez des patients qui souffrent d'une baisse extrêmement prononcée du désir sexuel. Alors, dans la première étude, nous avons étudié, donc, la première étude, ça a été un peu la mise en place de la méthodologie, puisqu'il est clair qu'à cette époque, personne, finalement, ne saurait si un état d'excitation sexuelle, c'est un état quand même très particulier, pourrait être déclenché dans des circonstances de laboratoire a priori peu propices. Donc, ça a été, cette première étude, la mise en place, finalement, de ce protocole d'étude. Donc, nous avons étudié 8 sujets volontaires sains, masculins. Tous ces sujets, à cause de la latéralisation droite ou gauche des phénomènes cérébraux, ont été choisis droitiers. Et enfin, d'orientation hétérosexuelle, puisqu'on ne savait pas, on ne sait toujours pas très bien d'ailleurs, si l'orientation sexuelle peut influer sur les phénomènes que nous étudions. Donc c'était des jeunes gens situés entre 21 et 25 ans, et nous les avions étudiés au préalable sur le plan psychologique pour nous assurer qu'ils étaient susceptibles d'avoir des réponses prononcées face à des images sexuellement explicites. C'est-à-dire qu'on les avait remplis des questionnaires psychologiques que nous leur avions présentés pour étudier leur excitabilité sexuelle. Donc l'étude a bien entendu été soumise, comme il se doit, à un comité consultatif qui appelait à juger si le protocole était éthique, respectait les standards éthiques. Il a été accepté par ce comité. L'autre chose, c'est que chaque sujet recevait donc ce qu'on appelle un consentement informé qui leur expliquait très en détail le but et la méthodologie de l'étude et qu'ils étaient appelés à signer avant donc de s'engager dans l'étude. Alors, sur le plan du plan expérimental, en fait, on avait 3 conditions. Je vais vous les citer, non pas dans l'ordre, mais d'abord, il y avait une condition sexuelle où nous présentions donc un film, un extrait de film, présentant en fait un rapport sexuel, hétérosexuel, qui avait été sélectionné au préalable pour qu'il remplisse 2 conditions. Un, qui n'est pas de caractère choquant. Deuxièmement, donc qui n'induisent pas un sentiment désagréable ni de dégoût. Et deuxièmement, pour qu'évidemment, il induise un état d'excitation sexuelle. Donc il y avait préalablement des jeunes gens volontaires qui avaient en quelque sorte évalué ces films sur ces 2 critères. Deuxièmement, il y avait un film qu'on a appelé neutre émotionnellement. Très dur de trouver un film neutre émotionnellement. En fait, c'était un documentaire où il y avait une personne donc, qui explorait une forêt ou qui marchait dans une île, l'île de Ré, pour ne pas la citer. Et troisièmement, en fait, on a pensé qu'il était très important qu'il y ait une condition émotionnelle plaisante, mais non sexuelle. Parce que, imaginons que l'étude montre qu'il y a bien une activation cérébrale dans la sexualité, on pourrait très bien se dire que ça n'a rien de particulièrement sexuel, qu'il s'agit simplement d'une réaction émotionnelle non sexuelle. Donc nous avons inclus un film de nature en fait humoristique, l'humour étant une émotion de type plaisante et sans caractère sexuel, en tout cas dans ce cas présent. Je sais à combien de temps là. 20. Alors, je vais vous dire quelques mots rapidement sur la tomographie par émission de positons. En fait, le principe est le suivant. On injecte une quantité de radioactivité très faible par voie intraveineuse. En fait, il s'agit d'une injection d'eau, mais cette eau a un caractère particulier, c'est qu'au lieu que l'oxygène soit de l'oxygène banal, c'est de l'oxygène 15, c'est-à-dire que une partie infime, du moins, des noyaux atomiques de l'oxygène sont de l'oxygène 15, ce qui fait que quelques molécules émettent donc un positon, qui est très schématiquement donc l'inverse d'un électron. Ces positons vont faire un petit trajet dans la matière avoisinante, rencontrer très rapidement donc des électrons. Il y a ensuite annihilation, c'est-à-dire l'électron et le positon s'annihilent réciproquement. Et à ce moment-là, il y a émission de ce qu'on appelle donc un photon gamma. Et ce photon gamma va impressionner des récepteurs qui sont disposés, donc c'est la caméra proprement dit, la caméra donc TEP, qui est disposée en couronne autour de la tête. Donc voilà très très schématiquement comment, disons, à quoi réagit la caméra. Donc ce sont à des photons gamma. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque une région du cerveau travaille, il y a immédiatement, enfin très rapidement, une augmentation du débit sanguin local. Probablement, bien sûr, parce que ce travail consomme de l'oxygène. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'eau qui va arriver là va arriver en plus grande quantité. Par conséquent, il va y avoir plus d'eau marquée. Par conséquent, il va y avoir plus de désintégration et d'émission de photons à ce niveau-là. Donc on a utilisé une caméra qui était un petit peu ancienne à cette époque-là et nous avons en plus alors essayé évidemment d'objectiver la réponse des sujets en leur présentant après chaque film des échelles d'évaluation pour avoir leur réponse subjective. Donc on leur demandait au cours du film que vous venez de voir quelle a été l'intensité de l'excitation sexuelle que vous avez ressentie. Et on représentait 9 niveaux possibles, depuis extrêmement forte jusqu'à extrêmement faible. Deuxièmement, on leur demandait la même chose pour l'intensité de l'humour perçu. Et troisièmement, dans cette étude, comme nous ne savions pas très très bien quelle serait leur réaction, on leur présentait un très bref questionnaire d'anxiété pour nous assurer que il n'y avait pas d'anxiété déclenchée par ce protocole. D'ailleurs, le protocole ne commençait jamais si l'anxiété dépassait un niveau que nous avions donc identifié comme étant un niveau trop important. Dans les faits, en fait, les sujets n'ont jamais eu une anxiété exagérée. Le protocole s'est déroulé dans des conditions qui ne posaient pas de problème de ce côté-là. Alors, ensuite, nous avons aussi tenu à avoir une mesure objective de l'excitation sexuelle et nous avons enregistré ce qu'on appelle donc la tumescence pénienne avec un instrument qu'on appelle un plétismographe. Le sujet mettait lui-même un petit anneau en caoutchouc qui se distendait en cas d'érection et à ce moment-là, il y avait la possibilité donc d'enregistrer avec un appareil approprié cette réponse objective du sujet. Enfin, nous avons enregistré des réponses psychophysiologiques autres, objectives toujours, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, et également, nous avons enregistré à plusieurs reprises le taux plasmatique de la testostérone. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de l'analyse des images que l'on obtient. Il y a des logiciels ad hoc qui permettent de savoir quelles sont les régions du cerveau où il y a justement une augmentation de l'activité cérébrale à un moment donné. Très schématiquement, ce qui se passe, c'est que on prend la condition qui nous intéresse, en l'occurrence la condition sexuelle. On a en chaque point du cerveau un débit sanguin. Ensuite, on prend la mesure correspondante au même point du cerveau, mais pour la condition de référence, qui est la condition neutre. Et on fait, enfin c'est ce que fait le logiciel, une soustraction. Donc on a finalement une différence. On peut dire dans cette région-là du cerveau, la différence entre l'état activé sexuel et l'état non activé neutre, c'est cette mesure-là. Et il y a moyen de savoir si cet écart est un écart qui est aléatoire, qui est simplement du bruit, qui n'a pas de sens, ou bien au contraire, si cet écart a une signification statistique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dû au hasard, qu'il est vraiment dû à un effet physiologique. Alors nous avons comme ça, je vais, pour aller plus vite, je vais dire que sexuel c'est S, pour aller plus vite, je vais dire que neutre c'est N, et que H c'est humour. Donc nous avons soustrait S moins N, on a aussi fait N moins S pour savoir s'il y avait des régions qui se désactivaient lors de la sexualité. On a aussi fait H moins S, S moins H, pour savoir s'il y avait des régions qui s'activaient plus dans la sexualité que devant un film humoristique, etc. etc. Une chose aussi que je voudrais vous dire, c'est que, évidemment, cette expérience n'aurait pu fonctionner si le sujet n'avait pas l'assurance que son intimité était complètement respectée. Donc en fait, ce que nous avions fait, c'est qu'on avait installé un rideau autour du sujet, de telle façon qu'il ne soit pas dérangé par le passage éventuel de personnes autour de l'appareil, et qu'il ne soit pas donc lui visible, et inversement. Alors, les résultats, on va peut-être regarder sur la diapositive suivante, déjà, si les sujets ont bien eu une réponse dans des circonstances un petit peu artificielles. Alors, vous voyez que devant le film sexuel, la fréquence cardiaque moyenne passe à 64. Ce n'est pas beaucoup plus haut, mais c'est quand même une augmentation. Et comme tout le monde a cette augmentation-là, elle finit par être statistiquement significative. Vous voyez également que la fréquence respiratoire, qui est de 18 cycles ventilatoires dans la condition neutre, augmente un petit peu, là encore d'une façon qui est significative à cause du fait que ça se passe chez chacun. Une chose qui est également très intéressante, c'est que la testostérone va monter dans le sang. Il y a chez l'homme, et c'est vrai chez tous les mammifères chez qui cela a été étudié, une réponse de la testostérone sanguine à l'état d'excitation sexuelle et encore plus à la copulation. Alors évidemment que la réponse subjective est très forte. Vous voyez, 1, ça veut dire extrêmement faible, voire nul. Donc c'est le cas devant le film neutre et le film humoristique. 6.9, c'est-à-dire 7, ça correspond à grande, à l'adjectif grande, pour qualifier l'excitation sexuelle. Quant à l'humour, il est très faible pour les films neutres et sexuels, et il est moyen en réponse aux films humoristiques. Donc, on peut dire que nous avions induit, finalement, l'état que nous cherchions à induire. Là, la tumescence pénienne, c'est-à-dire l'érection, n'est pas mentionnée. Donc j'ajoute à ce tableau que tous les sujets ont réagi à la présentation du film par un phénomène donc, de tumescence pénienne. Alors ensuite, je vais vous montrer un tableau, ça sera un petit peu aride dans un premier temps, puis je vais vous montrer une image un petit peu plus parlante. On peut peut-être montrer la diapo suivante. Donc là, ce qu'on voit, C'est une liste des régions où le débit sanguin devient plus important lorsque le film sexuel est présenté que lorsque le film neutre est présenté. Donc, gyrus, la circonvolution temporale inférieure s'active. On voit aussi donc une région qui est dans la profondeur du cerveau, en fait, dans une espèce de repli entre le lobe frontal et le lobe temporal qui est l'insula. Une région très profonde que l'on appelle le noyau caudé, du côté droit. Ici, vous avez une structure temporale, donc on retrouve ces lobes temporaux dont je vous parlais. Ici, une structure frontale, donc on retrouve la structure frontale dont je vous avais parlé tout à l'heure à propos des lobotomies. Le gyrus temporal inférieur, qui est à peu près le symétrique de celui-là. Et puis, surtout, le gyrus singulaire, dont je vous avais dit un petit mot à propos des crises épileptiques. Là, c'est le contraste neutre moins sexuel. Il semble qu'il y ait des régions qui se désactivent, et que ce soit le cas pour la partie postérieure du gyrus singulaire, alors que là, nous sommes dans la partie antérieure, et pour une autre partie du lobe frontal. Alors, on va montrer la diapo suivante, qui est plus parlante. En fait, là, pour comprendre ces images, je vous invite en fait à ne regarder que celle-là. Il faut imaginer que le cerveau est en vert, transparent, et qu'on voit à travers quelles sont les régions qui s'activent. Donc là, par exemple, vous êtes comme si vous aviez une vue d'avion, et vous voyez, ça c'est la partie antérieure du cerveau, ça c'est la partie supérieure. Vous voyez les deux gyris temporaux là, qui se sont activés. On les retrouve là. Là, il faut imaginer que vous voyez le sujet depuis, enfin, comme je suis placé, c'est-à-dire vous le voyez comme ça, et là, il y a donc ces lobes temporaux qui s'activent. Alors, ce qui est important, je crois, c'est de bien repérer ici cette activation donc, singulaire. Ça, c'est la partie gauche du cerveau. Là, il y a le noyau caudé. Ici, donc, il y a le pôle temporal et puis la partie postérieure, ici, du lobe frontal. Et puis, ici, vous avez une partie du cerveau dont je vous disais qu'elle est dans un repli entre le lobe frontal et le lobe temporal, qui correspond à l'insula et au claustrum, qui est une lame de substance grise qui est juste sous l'insula. Je vous remontrerai des images plus parlantes tout à l'heure. Alors, si vous voulez, à la suite de cette étude, je vais vous demander de montrer la diapo suivante. On a eu le sentiment que l'excitation sexuelle, finalement, on pouvait un petit peu l'analyser mieux. C'est un peu un paradoxe, parce que finalement, c'est en partant de la biologie ou de la neurobiologie qu'on a eu l'impression de mieux comprendre certains aspects de la psychologie. On a eu le sentiment qu'il y avait une composante cognitive, une composante, je dirais, émotionnelle, motivationnelle, et une composante physiologique. Pourquoi ? Parce que quand on essayait de comprendre à quoi pouvaient bien correspondre les activations que je vous ai décrites tout à l'heure, nous les avons interprétées de la manière suivante. On a pensé que les activations temporales, finalement, ça correspondait au traitement cognitif de ces films. Pour des raisons qui tiennent à la littérature scientifique sur le rôle du cortex temporal. La composante émotionnelle et motivationnelle, on a eu des raisons de penser, toujours à cause de la littérature scientifique sur ce domaine, qu'elle pouvait être en relation avec le gyrus singulaire et également cette activation de l'insula dont je vous ai parlé. Et puis, la composante physiologique, il y avait des raisons de penser qu'elle pouvait être en relation avec l'activation toujours de ce gyrus singulaire parce qu'on sait, j'y reviendrai, qu'il est à l'origine de phénomènes neurovégétatifs, notamment par exemple cardiaque, il influe sur la tension artérielle lorsqu'il est stimulé, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez l'animal. Alors physiologique, je veux dire par là bien sûr les phénomènes d'érection, le phénomène cardiaque, les phénomènes respiratoires et aussi les modifications hormonales. Donc, dans la suite, on a fait une deuxième étude. Pourquoi ? Parce que la première caméra ne voyait qu'une partie du cerveau. Deuxièmement, les sujets avaient quand même été très sélectionnés. Ils étaient particulièrement jeunes. Ils étaient sélectionnés pour la probabilité de leur réponse forte à des images sexuelles. L'étude était purement exploratoire, c'est-à-dire que certains résultats pouvaient être dus au hasard. Il fallait donc les confirmer. Et puis aussi, il y avait un petit problème, c'est que les images étaient mobiles, c'était des films. On pouvait se demander si, en fait, les activations temporales ne reflétaient pas le traitement du mouvement des cibles, qui n'était pas exactement le même, ce mouvement, dans les différents films. Et puis surtout, et enfin, on s'est dit que ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir présenter des images, cette fois-ci, qui n'aient pas la même valeur de stimulation sexuelle, c'est-à-dire augmenter finalement progressivement l'intensité du stimulus et voir si la réponse cérébrale allait en augmentant parallèlement. Donc on a étudié à nouveau 9 sujets qui avaient les mêmes caractéristiques que les précédents, mais qui étaient plus âgés. Cette fois-ci, leur âge allait de 21 à 39 ans. Nous avons à nouveau, bien sûr, demandé l'accord d'un comité d'éthique. Et nous avons présenté les 3 mêmes conditions, plus 3 conditions purement photographiques. Cette fois-ci, il y avait des photographies de femmes qui généraient, selon l'évaluation d'étudiants à qui nous avions demandé de juger ces images, un état d'excitation soit extrêmement faible, donc c'était des images de personnes au travail en fait. Deuxièmement, des images... En fait, la réponse n'est pas nulle, la réponse existe, mais en fait, c'est très difficile de trouver des images de jeunes femmes où personne ne réagit. Deuxièmement, il y avait des images de mannequins, donc des femmes réputées jolies, mais vêtues. Et troisièmement, des images de jeunes femmes soit nues, soit en grande partie nues. Et ces images ont été évaluées par des volontaires donc qui ne participaient pas au reste de l'étude. Et il y avait une gradation donc, de leur évaluation de ces photographies. Alors, l'un des problèmes qui se pose dans ce genre d'étude, c'est que l'état d'excitation sexuelle est un état qui ne s'arrête pas de façon immédiate. Ce n'est pas un effet on-off. Il y a une persistance de l'excitation sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours utilisé un ordre similaire, où on est passé de présentation de stimuli neutres à humoristiques, puis des photos non stimulantes, jusqu'à photographies stimulantes, puis films. Faute de quoi, on a un espèce d'effet, si vous voulez, de contamination, entre guillemets, du stimulus neutre par l'excitation sexuelle. On a utilisé, pour vérifier que les sujets avaient bel et bien une excitation sexuelle, les mêmes instruments, les mêmes mesures que dans la première étude, mais cette fois-ci, on a mesuré en plus la pression artérielle diastolique et systolique. Alors, les résultats, on va peut-être regarder ça dans la diapo suivante. Alors, peut-être avant, je vous explique comment ça se passe. Au départ, on montre le film, premier film neutre. Ensuite, il y a en fait, après chaque film, vous avez une période où on interroge le sujet pour avoir ses réactions subjectives, où on fait un prélèvement sanguin, et puis ensuite, il y a une période de repos, et puis une période où on présente un film neutre, mais où on ne fait pas de mesure, et qui est destiné, ce film neutre, à ce que le sujet retrouve son état émotionnel basal. Toujours dans ce souci, si vous voulez, d'éviter une contamination émotionnelle d'une mesure à l'autre. Donc là, vous avez les deux films neutres, deux films comiques, les photos A1 qui sont des photos, disons, non stimulantes, les photos B1 qui sont les mannequins, les photos, enfin B1, B2, C1, C2 qui sont les photographies de jeunes femmes dévêtues, et S1, S2 qui sont les photographies Enfin, excusez-moi, les films. Voilà. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a chaque fois la répétition. C'est parce que la tomographie a un rapport signal sur bruit qui n'est pas très bon et on est obligé de répéter chaque fois les mesures pour qu'elles soient vraiment démonstratives. Donc, prochaine diapositive, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est une espèce de gros plan sur ce que je vous ai montré à l'instant. Stimulation visuelle, présentation des questionnaires, retour à la ligne de base émotionnelle grâce à un film neutre, repos et à nouveau stimulation émotionnelle, etc., etc. Prochaine diapositive. Alors voilà l'excitation sexuelle telle qu'elle est perçue par les sujets en réponse aux stimulations variées. N, vous voyez que ça, c'est un peu au-dessus de 1. 1, ça veut dire extrêmement faible, hein, il n'y a pas de 0. Hein. 0,83, bon, c'est l'écart type associé. H, c'est pareil. A, vous voyez qu'il y a une toute petite montée. Puis B, il y a une excitation sexuelle qui est entre faible et moyenne. C, une excitation sexuelle entre moyenne et forte. Et ici, vous avez à peu près 7, c'est-à-dire grande, devant les films. Ensuite, on va montrer la diapositive suivante. Alors voilà, ici, vous voyez une montée. Chaque fois, on a cette montée. Cette fois-ci, donc, c'est la pression systolique moyenne. Vous avez une montée progressive de la pression artérielle en réponse à ces différents stimuli. On va montrer la suivante, s'il vous plaît. Là, en fait, ce sont des mesures de ce qu'on appelle donc, la tumescence pénienne. En fait, chaque sujet a un score dont la moyenne est 0 et l'écart type de 1. Donc, au départ, ben, évidemment, il est très faible, il est en dessous de la moyenne. Et puis, ensuite, à mesure qu'on passe de N, H, A, B, C jusqu'à S, on voit donc que la réponse, la tumescence pénienne, est mise en évidence. Ici, vous avez, on ne voit pas très très bien, mais voilà la tumescence pénienne qui est nulle en réponse à un film neutre. Et là, vous avez une montée, si on pouvait faire la mise au point. Je ne sais pas si c'est... Moi, je ne vois pas très très bien, mais... Il me semble que c'est un... Ici, vous avez donc une montée de la tumescence pénienne, voilà, qui atteint un plateau en réponse donc au film. Voilà. De même, alors on va revoir dans cette nouvelle expérience la testostérone sanguine. Alors ça, c'est la fréquence cardiaque. En fait, la fréquence cardiaque a une évolution qui est assez particulière. Elle augmente bien devant les films et les photos stimulantes. Par contre, elle est particulièrement faible devant les photos de mannequins. C'est très intéressant. Il y a probablement en fait, un effet particulier des images de mannequins qu'on va retrouver d'ailleurs au niveau cérébral. Prochaine diapositive. Voilà, la testostérone, en fait, c'est très particulier. Elle monte devant les films humoristiques. Et ça, on l'avait déjà vu dans la première étude. Si vous vous souvenez, il y avait déjà une petite montée de la testostérone. Donc, il y a une montée qui semble être purement émotionnelle, mais elle est beaucoup moins forte, cette montée, devant l'émotion humoristique que devant l'émotion sexuelle, où là, elle est carrément significative, comme dans l'expérience précédente. Ensuite, on va regarder alors les mesures cérébrales, cette fois-ci. Alors, je vais passer assez vite sur la liste, qui est un petit peu aride, donc on va continuer peut-être. Je cite quand même les plus importantes. On va retrouver la partie frontale du cerveau, le gyrus singulaire, l'hypothalamus, ici ce qu'on appelle le sillon central, sur lequel je reviendrai, lobule pariétal inférieur, une nouvelle localisation dans le gyrus singulaire, l'amygdale dont on avait parlé en introduction, une excitation du occipital, le putamen donc, qui est nouveau par cette étude, qu'on ne voyait pas avant. Prochaine diapositive. Là, c'est la suite en fait de la liste des régions qui sont activées, le claustrum dont je vous ai dit un petit mot tout à l'heure, le nucleus accumbens, le noyau caudé, le thalamus, le gyrus précentral, le cervelet, l'obule parieto, thalamus, on continue. Et là, ce sont des régions où il y a une diminution du flux sanguin. Et vous voyez qu'on retrouve le mot temporal, temporal, temporal à beaucoup d'endroits, ici, ici. On continue. Alors, voilà, ici, vous avez l'image, beaucoup plus jolie qu'avant, bien sûr, parce que c'est une nouvelle caméra. La différence, ce que vous voyez en jaune, là, c'est la différence, c'est l'activation, si vous voulez, entre ce qui se passe quand le sujet regarde un film humoristique et ce qui se passe quand le sujet regarde les films sexuels. Et là, vous voyez bien le fameux gyrus singulaire. Et quand on va un petit peu plus profond dans l'analyse, on voit qu'il y a un foyer ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le gyrus singulaire antérieur. Tout ça, là, c'est le gyrus singulaire postérieur. Ici, vous avez un premier foyer, et là, vous avez un deuxième foyer. Ça, on le voit avec le logiciel, on ne le voit pas à l'œil nu. Ici, c'est la même chose, là. C'est-à-dire que là, vous avez une coupe qu'on appelle sagittale, donc une coupe comme ça, et on regarde la partie gauche du cerveau. C'est la face interne, si vous voulez, l'hémisphère gauche. Alors que là, si vous voulez, vous avez en fait une coupe frontale qui passe à peu près comme ça, qui est coupée comme ça, et vous avez ici le gyrus singulaire ici, coupé. Là, le claustrum, ici le claustrum aussi, avec ici ce qu'on appelle le putamen. Et là, vous avez cette fois-ci une coupe horizontale qui passe donc comme ça, et là, vous avez toujours ce fameux gyrus singulaire. Prochaine, s'il vous plaît. Là, vous avez toujours S moins H. Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est le gyrus orbitaire. C'est la partie du lobe frontal qui repose sur les orbites, des deux côtés. Il y en a une activation. Ici, bon, bah, vous retrouvez aussi du gyrus orbitaire, et puis la partie antérieure du gyrus singulaire antérieur, qu'on retrouve le même que tout à l'heure, mais un peu plus en avant dans le cerveau. Suivante. Alors ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on a soustrait la condition neutre de la condition sexuelle. Donc vous retrouvez ici, en fait, là, on ne voit pas très bien, mais il y a une petite lame qu'on appelle le claustrum, et on voit bien qu'il est activé du côté droit. Ici, vous avez le gyrus singulaire antérieur à gauche, et puis là, très important, le noyau caudé, la tête du noyau caudé droit. Prochaine, s'il vous plaît. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une vue de l'hypothalamus. On active donc la partie, quand on regarde bien, c'est la partie plutôt postérieure de l'hypothalamus qui s'active lors d'une analyse où on corrèle, on cherche s'il y a une relation entre l'activation de l'hypothalamus et le degré de tumescence pénienne. Et ce qui se passe, c'est que plus la tumescence pénienne est élevée, plus on a une activation hypothalamique importante. Il faut peut-être le dire dans l'autre sens, d'ailleurs. C'est plus il y a une activation hypothalamique importante et plus la tumescence pénienne est importante. Peut-être regarder la suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est assez intéressant aussi parce que vous retrouvez cette fois-ci l'activation du gyrus singulaire, mais ce n'est pas la même analyse que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était simplement une soustraction. On prenait film sexuel, et on enlevait film neutre. Cette fois-ci, ce que l'on recherche, c'est la corrélation entre la cotation que le sujet donne quand on lui demande quel a été le degré d'excitation sexuelle que vous avez ressenti, d'une part, et d'autre part, le débit sanguin cérébral dans les différentes régions du cerveau. Ben, quand on cherche à savoir, finalement, quelles sont les régions du cerveau où il y a une telle corrélation, il y a le gyrus singulaire antérieur gauche qui apparaît. Et ça, c'est une analyse qui est limitée aux photographies A, B et C. Si on montre les films, si on prend l'ensemble des conditions, N, H, A, B, C, S, on obtient la même image. Mais on l'obtient aussi bien si on limite l'analyse simplement aux photographies. Ce qui est Peut-être aussi à signaler, donc, c'est que toutes les régions qui sont désactivées, pratiquement, sont des régions temporales. Ça, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, parce que ça veut dire finalement que lorsqu'un sujet ressent une excitation sexuelle, eh bien, dans son cerveau, il y a beaucoup de régions temporales qui voient leur débit sanguin diminuer. Donc, peut-être, il me reste, j'en suis à combien de temps là ? D'accord. Alors, donc si on veut un peu résumer l'information, lorsque l'on fait des soustractions, qu'on prend une condition, qu'on lui enlève une autre condition, on voit apparaître une activation du gyrus singulaire antérieur gauche avec deux pics, un pic qui est vraiment très antérieur et un pic qui est plus postérieur, mais le tout dans ce qu'on appelle le gyrus singulaire antérieur. On a essayé de voir si on pouvait faire ce qu'on appelle des analyses de conjonction. Alors, je vous explique ce que c'est. On prend le film sexuel, on prend le film neutre, et on s'aperçoit qu'il y a une activation dans le gyrus singulaire. Après, on prend les photographies de type C, donc les jeunes femmes dévêtues, on prend les photographies de type A, les jeunes femmes au travail, on regarde ce qui se passe et on voit une activation aussi dans certaines régions. Et ensuite, on prend les deux analyses et on demande à l'ordinateur d'identifier les régions où il se passe la même chose, c'est-à-dire où il y a le même résultat. On demande à l'ordinateur d'identifier les régions, finalement, qui sont activées en commun, aussi bien devant les films que devant les photographies. Et lorsque l'on fait cette analyse, on voit apparaître le gyrus singulaire antérieur. Donc il semble que ce soit quelque chose de solide, que l'on retrouve, quelle que soit la modalité finalement, qui permet de générer cette excitation. Alors, en dehors du cortex singulaire antérieur, vous avez des régions plus profondes dans le cerveau, donc les deux claustrums, le putamen, le thalamus. Et puis, je vous avais annoncé qu'il se passait quelque chose de particulier en réponse aux photographies de mannequins. Il se passe quelque chose de particulier dans le cortex orbitofrontal droit, donc cette région qui repose sur l'orbite. Parce que dans ce cortex, si on montre des photographies où il n'y a pas de femmes, c'est-à-dire les films humoristiques ou les films neutres, le débit est très bas. Par contre, si on montre des photographies où apparaissent des femmes, là, le débit monte. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il monte, quel que soit finalement le type de photographie de femmes. Il ne va pas réagir beaucoup plus devant une photographie C que devant une photographie A. Et en fait, il réagit surtout devant les photographies B, c'est-à-dire donc les mannequins. Or, lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils ont ressenti devant les photographies, après, si vous voulez, dans un temps ultérieur, en fait, ce qu'ils disent, en gros, c'est que les photographies B sont des photographies où il y a une dimension esthétique, donc où il y a un jugement, si vous voulez, esthétique, alors qu'il n'y a pas du tout ça dans les photographies C, où c'est plus, si vous voulez, une réaction, je dirais, un petit peu pulsionnelle, et pas du tout ça dans les films S, où là aussi, c'est beaucoup plus pulsionnel, où il n'y a pas de dimension esthétique. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que le cortex orbitofrontal, il a, si vous voulez, un rôle, justement, on pourrait dire très cérébral, c'est le cas de le dire, où il y a une opération d'évaluation du stimulus. Ce qu'on a vu aussi, j'en ai peu parlé, mais c'est une activation de l'amygdale du côté gauche. Et ça, c'est important parce que c'est des choses qui sont... L'amygdale est une région qui a été extrêmement impliquée dans le comportement sexuel animal. Et donc, également, ces soustractions montrent une désactivation des lobes temporaux. Donc, vous avez compris que je faisais d'une part des soustractions et d'autre part une analyse de la covariation, c'est-à-dire, on pourrait dire, de la relation, entre guillemets, dose-effet. Plus on stimule, plus certaines régions du cerveau s'activent. Alors, en fait, pratiquement toutes les régions qui sont trouvées lorsqu'on fait une analyse par soustraction, eh bien on les retrouve lorsqu'on fait une analyse où on cherche une corrélation quantitative entre le degré de stimulation et le degré de la réponse cérébrale. Alors, pour ramasser un petit peu tout ça dans une armature un peu plus conceptuelle, il y a donc, si vous voulez, qui se dégage finalement de ce travail, une conception qu'on pourrait dire multipartite de l'excitation sexuelle. Il y a un facteur cognitif, il y a un facteur émotionnel, un facteur motivationnel et un facteur physiologique. Vous vous rappelez des composantes qui sont très interreliées les unes avec les autres. L'aspect cognitif, je vous en ai un petit peu parlé, c'est cette opération qui va permettre d'évaluer finalement un stimulus et de lui attribuer une signification sexuelle. On pense, après cette étude, que le cortex orbitofrontal est impliqué dans cette opération-là. Bon, le fait qu'il y a une réponse maximum à la présentation des photographies de mannequins est un argument. Un deuxième argument, c'est que quand on regarde des études qui ont été faites sur des sujets un petit peu voisins, par exemple, une étude sur la sensation tactile plaisante versus la sensation tactile non plaisante, on voit que le cortex orbitofrontal évalue justement le caractère hédonique, positif, de la sensation plaisante. De même, dans la faim, si vous montrez à un singe de la nourriture, si la faim, on voit s'activer son cortex orbitofrontal, s'il n'a pas faim, la même image n'a aucun effet sur lui. Donc tout se passe comme si le cortex orbitofrontal codait, représentait la signification motivationnelle que le sujet ou l'animal attache à un stimulus. En ce qui concerne l'aspect, je dirais, neurovégétatif de l'excitation sexuelle, nous pensons que ce travail soutient le rôle de la partie tout à fait antérieure du cortex singulaire. L'une des raisons, c'est que lorsque l'on prend cette région chez le singe et qu'elle est stimulée électriquement, il y a déclenchement d'une érection. On sait également que lorsque chez l'homme, à l'occasion d'interventions neurochirurgicales, on pratique une stimulation de cette partie tout à fait antérieure du cortex singulaire, on obtient des modifications du système neurovégétatif, cardiaque, de la fréquence cardiaque, également de la fréquence respiratoire. Pratiquement tous les organes périphériques sont sous le contrôle de cette partie du cortex singulaire. Il y a toute une circuiterie des voies nerveuses qui vont de ce cortex singulaire vers le bulbe rachidien, c'est-à-dire au noyau finalement qui contrôle le fonctionnement neurovégétatif, et également qui vont depuis ce cortex singulaire jusqu'à l'hypothalamus, dont vous connaissez bien le rôle dans le contrôle neurovégétatif. Je vous parlais de l'hypothalamus, justement vous l'avez vu activé dans cette présentation. Nous pensons que l'hypothalamus intervient également dans le contrôle de l'érection qui est déclenchée dans ce travail expérimental. D'abord, évidemment, parce qu'il y a la corrélation dont je vous ai parlé, mais aussi parce que dans des expériences chez l'animal, on voit que quand on stimule la partie postérieure de l'hypothalamus, on obtient soit simplement une érection, soit, dans un endroit un petit peu différent, monte de la femelle, ça se passe chez le singe, monte de la femelle, mouvement de poussée pelvienne, et ça va jusqu'à l'éjaculation dans un noyau bien particulier de l'hypothalamus. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a un composant émotionnel. Un composant émotionnel, il y a l'aspect plaisir, et puis il y a l'aspect, on n'aurait pas d'émotion si on n'avait pas des perceptions qui viennent du corps, comme par exemple la fréquence cardiaque, on sent son cœur qui bat, on sent qu'on a plus chaud, plus froid, etc. Alors, ce composant émotionnel, on a des raisons de penser qu'il y a une des parties du gyrus singulaire que je ne vous ai pas détaillée d'ailleurs, qui est activée dans notre étude, et on sait, par d'autres travaux en imagerie cérébrale, que cette région-là est liée à la perception consciente de l'émotion. Ce sont d'autres travaux sur d'autres émotions, d'ailleurs. Ça peut être l'émotion de peur ou de tristesse. On sait que le cortex singulaire est impliqué dans la perception de l'émotion. Maintenant, qu'en est-il de ce qui est peut-être le plus typique du comportement du désir sexuel, à savoir le désir, finalement, de mettre en acte, d'effectuer une action. Donc l'aspect, je dirais, désir sexuel et motivation. Alors là, nous pensons que la partie qui pourrait être la plus en relation avec cet aspect, c'est le cortex singulaire, mais la partie caudale, celle qui était tout à fait en arrière. La partie caudale du cortex singulaire antérieur, toujours. L'une des raisons qui nous font penser ça, c'est que c'est un cortex qui est très proche de ce qu'on appelle le cortex prémoteur ou aire motrice supplémentaire. C'est-à-dire que ce sont des régions qui, quand on regarde avec un microscope, ont des aspects prémoteurs. Et le désir de passer à l'acte, qu'est-ce que c'est sinon une préparation d'un comportement effectivement moteur. Lorsque l'on stimule cette partie-là du cortex singulaire chez le singe, on a l'apparition de comportements masturbatoires. Si vous vous rappelez l'introduction chez l'être humain, vous vous rappelez donc que dans les crises avec comportement moteur sur le plan épileptique, il y avait point de départ dans la région singulaire. Donc tout ça, ce sont des arguments qui vont dans ce sens. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi de voir que lorsque un sujet est dans une caméra, il ne peut pas justement mettre en acte son désir sexuel. Il doit rester immobile. Donc il y a forcément la mise en œuvre de mécanismes de contrôle inhibiteurs qui vont empêcher ce passage à l'action. Or, dans cette région du cortex singulaire antérieur, dans cette région tout à fait caudale, il y a précisément un cortex que l'on appelle le cortex sélectif, le cortex de sélection de la réponse. Et on sait que lorsqu'un individu doit faire un choix entre deux comportements, qu'il doit en inhiber un pour pouvoir en activer un autre, il doit se retenir au fond de faire quelque chose pour pouvoir faire autre chose, il y a activation précisément de cette partie-là du cortex. Par exemple, si on habitue un singe à répondre toujours, par exemple, en pressant sur un levier quand on lui donne pour obtenir du jus d'orange, et que brusquement, s'il appuie sur le levier, on lui donne quelque chose qu'il n'aime pas, comme de l'eau salée, il va falloir qu'il apprenne à arrêter d'appuyer sur le levier. Eh bien, c'est précisément ce cortex-là qui va devoir être mis en œuvre pour empêcher une réponse. Donc, si vous voulez, on en arrive à concevoir cette région du cortex singulaire comme un lieu de convergence où il y a à la fois des signaux qui arrivent et qui sont du type « go », allez-y, et des signaux qui arrivent et qui sont du type « no go », c'est le jargon un petit peu qu'on emploie dans ces expériences chez le singe, il faut empêcher toute réponse. Et il se peut d'ailleurs que cette région du cortex soit liée à ce que l'on appelle la tension sexuelle, c'est-à-dire cette impression finalement déplaisante que ressent l'individu quand il a un désir et que ce désir ne peut pas être exprimé. Je vous ai aussi parlé du claustrum et du putamen. Je voudrais en parler un petit peu parce que ce sont des régions finalement qui sont très nouvelles dans la deuxième étude et qui sont peut-être l'aspect le plus nouveau de cette recherche. Alors, ce qui est intéressant avec le claustrum et le putamen, c'est qu'on obtient une relation dose-effet. Plus le sujet est excité sexuellement, plus le claustrum et le putamen voient leur activation augmenter. Donc, on a un argument qui nous fait penser qu'il est très impliqué dans l'excitation sexuelle. Alors, pourquoi on a tendance, nous, à penser qu'il s'agit de l'aspect motivationnel qui est impliqué dans le claustrum? Ce sont des arguments essentiellement embryologiques. Il semblerait que le claustrum remplisse chez l'être humain un rôle qui, chez l'animal, soit rempli par une partie qu'on appelle basolatérale de l'amygdale. Une autre chose, c'est que quand on stimule électriquement le putamen, il y a apparition d'une érection chez le singe. Troisièmement, lorsque l'on regarde d'autres comportements motivés, tels que la soif ou la faim, on voit apparaître également une activation au niveau du claustrum. Donc il y a un faisceau comme ça d'arguments qui nous font penser que ce claustrum et ce putamen sont impliqués dans les comportements motivés. Pour résumer, si vous voulez, l'idée que nous avons actuellement, c'est que lorsqu'arrive un stimulus sexuel, il est d'abord décodé par les structures temporales qui vont finalement l'évaluer en tant que stimulus sexuel, qui vont décoder, je dirais, sa forme, qui vont l'identifier comme sexuel. Ensuite, le traitement cognitif va être effectué par la partie orbitofrontale qui va donner une signification motivationnelle à cette forme identifiée comme sexuelle. Et ensuite, il va falloir qu'il y ait une sorte d'arbitrage entre les influences de type go et les influences de type no-go. Et cet arbitrage, d'après les théories actuelles sur le rôle des noyaux gris centraux, il pourrait bien être fait par le claustrum et par le putamen et aussi par le noyau codé que je vous ai montré plusieurs fois activé. Et de là, de toutes ces structures que je viens de vous citer, repartent des efférences vers précisément le cortex singulaire qui, lui, va avoir ce rôle prémoteur avec éventuellement ensuite mise en acte motrice. Sur les lobes temporaux, je dirais simplement une chose, c'est que ce que l'on pense, c'est qu'ils se désactivent parce qu'ils exercent une inhibition tonique sur le comportement sexuel. C'est-à-dire qu'en permanence, cette étude donne à penser qu'en permanence, il y a une action inhibitrice de la part des lobes temporaux. Et que lorsque l'individu va voir en lui se développer un état d'excitation sexuelle, il faut en quelque sorte que ce frein permanent soit levé pour que se développe cet état d'excitation sexuelle. Tout ça, ça concerne l'individu sain. Je vous dis en deux mots ce qui se passe chez les sujets qui ont un désir sexuel diminué. On va peut-être montrer quelques diapositives. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Je tenais à vous montrer ces images parce que je les trouve vraiment importantes, puisque là, on commence, si vous voulez, à rentrer dans la pathologie. Au fond, qu'est-ce qui se passe chez les individus qui disent ne plus avoir aucun désir sexuel ou alors en avoir vraiment très peu? Eh bien, quand on fait une différence entre ce qui se passe chez les individus qui ne sont pas, enfin, qui ne souffrent pas de ce problème et les individus qui disent en souffrir, on voit justement que le gyrus singulaire est plus activé en réponse aux photographies chez les sujets qui n'ont pas cette difficulté-là. Suivante, s'il vous plaît. Par contre, et c'est tout aussi important, quand on regarde quelles sont les régions du cerveau qui sont plus actives en réponse à des stimuli visuels sexuels chez les sujets qui n'ont pas de désir que chez les sujets qui ont un désir sexuel, on voit qu'il en existe aussi. Et il y en a dans le cervelet, il y en a dans certaines régions temporales et dans le gyrus frontal supérieur droit. Autrement dit, là où, à mon avis, on va peut-être commencer à pouvoir appliquer un certain nombre de résultats à la compréhension des troubles, autrement dit, il semblerait que chez les individus qui n'ont plus de désir sexuel ou qui en ont plus beaucoup, il y ait un fonctionnement trop fort de régions dont on est amené à penser, grâce à l'étude antérieure, qu'elles jouent un rôle de freinage. Et je vous en avais également parlé tout à l'heure à propos des lobotomies qui permettent de désinhiber certains sujets, qui aboutissent à désinhiber certains sujets. Il est probable qu'il y a des structures inhibitrices du désir dans le lobe frontal comme dans le lobe temporal. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Nous allons maintenant passer aux questions. J'ai une question là-haut déjà. Donc si un des micros pouvait être donné, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît ? Merci.
Allô ? J'ai pas de son.
Ça marche.
Ça marche ? Ok. Oui, j'ai une question. Je me demandais si vous avez fait la même recherche pour l'excitation sexuelle chez les femmes. Et si oui, s'il y a une différence des résultats ?
Alors nous, on a commencé à travailler chez les femmes à un niveau purement psychologique pour l'instant. Donc on a fait une étude sur le désir sexuel féminin en interviewant donc un échantillon de femmes. On n'a pas fait l'étude actuellement pour des raisons d'abord éthiques, c'est-à-dire que le problème c'est que chez une femme il y a toujours un petit risque qu'il y ait un embryon chez une jeune femme, et donc on ne fait pas d'études en tomographie par émission de positons, en tout cas au CERMEP avec les femmes, parce que ça risque de créer même une très petite dose de radiation, on ne le fait pas. Par contre, on peut utiliser une autre technique qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui ne repose pas du tout là cette fois-ci sur les radiations, et elle a été utilisée par une équipe de Montréal. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle retrouve beaucoup de régions que nous avions mises en évidence. Alors, eux se sont énormément centrés sur les différences hommes-femmes. Donc, c'est l'équipe de... Ça a été fait par un jeune chercheur qui s'appelle Karama, qui est parti de l'équipe de Beauregard. Et ils disent que chez la femme, il y a une activation... chez l'homme, il y a une activation hypothalamique qui, chez la femme, est moins forte, disent-ils. Bon, c'est ça le gros résultat de Karama et Beauregard, c'est une différence d'activation hypothalamique en réponse à des photographies, enfin en réponse à des films, ce sont des films. Bon, c'est clair, moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que chez la femme, à mon avis, si je devais faire une étude, je n'emploierais pas des stimuli visuels. Parce que quand je l'ai présenté à mon échantillon de femmes, des stimuli visuels, les mêmes que ceux que j'avais présentés aux volontaires masculins, la plupart, en fait, ont réagi beaucoup, beaucoup moins fort. En fait, à mon avis, ce n'est pas un très bon... ce n'est pas seulement, d'ailleurs, mon avis, il y a eu des études comparatives qui vont dans le sens que les stimuli visuels sont moins appropriés dans le sexe féminin que dans le sexe masculin.
Oui, attendez, une question là-bas, s'il vous plaît.
Bonjour, j'ai lu il y a quelques années un article de vulgarisation scientifique qui parlait du sommeil paradoxal et du fait que pendant le sommeil paradoxal, il y a une érection systématique, je crois, et qui expliquait ça par l'existence de deux substances hormonales, me semble-t-il, une qui en permanence provoquerait grosso modo une érection et une autre qui serait produite presque tout le temps pour inhiber cette première substance, sauf pendant notamment le sommeil paradoxal. ce qui expliquerait que de manière presque automatique, il y a une érection à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons. Vous confirmez éventuellement ces données, est-ce qu'il y a un lien entre les lieux que vous avez repérés dans le cerveau et les lieux de production de ces substances hormonales éventuelles?
Alors, sur l'aspect hormonal pur, moi, je ne connais pas ces travaux-là. Par contre, on est en relation avec Pierre Maquet, qui est un chercheur belge qui a fait des études en tomographie par émission de positons sur le sommeil paradoxal. Il y en a eu très peu dans le monde, mais il y a eu ce chercheur de Belgique. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde quelles sont les régions que lui trouve activées dans le sommeil paradoxal par rapport au sommeil non paradoxal, il y en a pratiquement toutes font partie de la liste que je vous ai montrée. Donc, s'il y a... Là, on peut se lancer dans des spéculations théoriques, ça peut aller très très loin, mais si je m'en tiens aux faits, quand on prend la liste de ces activations, c'est un sous-ensemble de notre liste à nous. Donc, très vraisemblablement, les régions qu'il active, lui, dans le sommeil paradoxal, qui sont activées dans le sommeil paradoxal, ont un lien avec les régions qui sont impliquées dans l'excitation sexuelle. Donc, on a le sentiment que la présence d'une érection a un côté, je dirais, logique dans ces conditions-là.
Une question ici. Oui, levez-vous. Levez-vous.
Merci. On parle actuellement de certains médicaments qui améliorent les performances. Est-ce qu'au niveau, je ne citerai pas de nom de firme, est-ce que vous avez fait des études sur les régions cérébrales qui seraient activées par l'absorption de ces médicaments?
Alors, c'est une question effectivement importante. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait ces études-là. Il est clair que les laboratoires qui fabriquent ça ont extrêmement, n'ont pas intérêt à ce que ces produits soient considérés comme des aphrodisiaques. Le fait qu'ils puissent être aphrodisiaques, qu'ils puissent éventuellement être impliqués dans des comportements de viol, serait à l'origine de poursuites judiciaires à n'en plus finir. Maintenant, ceci dit, autant que je sache, le Viagra, pour ne pas le nommer, n'a pas d'effet direct sur le désir sexuel. Enfin, c'est en tout cas comme ça que moi, je l'ai entendu vanter par notamment le laboratoire. Il ne semble pas, si vous voulez, avoir d'effet direct sur le désir sexuel. Bon, bien entendu, il peut avoir un effet indirect en améliorant l'érection. Il est clair que des individus qui pouvaient être inhibés par leur peur de ne pas en avoir se sentent libérés. Mais ce qui n'a jamais, à mon avis, été mis en évidence, c'est une substance qui a un effet direct sur le désir. Je n'en ai pas testé, mais il y en a peut-être.
Une question ici, puis une là.
Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il y a un lien entre les zones que vous nous avez montrées et par anticipation sur la toxicomanie qui touche en grosse majorité les hommes?
C'est une question en fait très intéressante parce que il y a certainement effectivement plusieurs régions du cerveau qui sont communes, plusieurs circuits qui sont communs à, disons, ce que nous observons dans l'excitation sexuelle et ce qui s'observe par exemple dans la cocaïnomanie. Par exemple, il y a une étude en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc cette technique dont je vous parlais tout à l'heure, utilisée chez les femmes, qui a montré que certaines régions que nous activons, nous, sont activées chez un individu, par exemple, au moment où il a ce qu'on appelle en anglais le craving, c'est-à-dire le désir d'avoir une injection, ou de sniffer, comme on dit, ou bien il y a d'autres régions qui sont activées au moment du flush, c'est-à-dire du plaisir. Et il y a beaucoup, parmi les régions qui sont activées dans l'étude sur la cocaïne, il y en a beaucoup qui font partie de la liste. Je n'ai pas pu vous détailler tout. Par exemple, il y a une région dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais qui est ce qu'on appelle le nucleus accumbens, hein, le noyau accumbens, qui est un noyau septal, hein, qui n'est pas très, très loin de l'hypothalamus. Nous l'avons retrouvé activé, et il est également activé dans les études concernant la toxicomanie. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je ne pense pas que nous mettons, nous, le doigt sur des centres de la sexualité. Ce que je crois, par contre, c'est que la sexualité, enfin, le vécu de l'excitation sexuelle, c'est un puzzle. Pour que l'individu, de son point de vue d'être conscient, se dise « je ressens ce que moi, je considère comme étant mon excitation sexuelle », il faut qu'il y ait un certain pattern qui s'active dans son cerveau. Et à ce moment-là, lui, de son point de vue, il va dire « je ressens ça ». Il faut qu'il ait une image, vous voyez, il faut qu'il y ait plusieurs choses, ça fait comme un puzzle. S'il manque une partie, bon, ça va encore, on peut reconnaître une forme sur un puzzle dont il manque une pièce. S'il en manque deux, ça va devenir plus difficile. S'il en manque trois, on reconnaîtra plus grand-chose. Je pense que pour la sexualité, c'est pareil. Si dans le cerveau d'un être, il y a toutes les régions activées là, il va reconnaître clairement, il voit quelque chose dans sa tête, qu'il imagine ou qu'il voit, il ressent son cœur qui bat, il ressent éventuellement, si c'est un homme, une érection, il ressent le désir de passer à l'acte, donc il n'a pas de doute. Dans certaines autres circonstances, il n'y a qu'une partie du puzzle qui existe. Par exemple, simplement une érection. Bon, ça, une érection, elle peut très bien ne avoir l'air, du point de vue de l'individu, d'être automatique. L'individu peut même se demander pourquoi. Ça arrive, quelque chose d'être complètement automatique. Hein. Donc, en fait, c'est comme un puzzle. Et je pense que, si vous voulez, pour la cocaïne, il y a beaucoup de régions qui sont communes, mais ce ne sont pas toutes les mêmes. Donc, le puzzle montre une autre image, vous voyez. Mais si j'insiste sur cette notion de puzzle, c'est parce que ça montre qu'on ne peut pas déclencher un vécu d'excitation sexuelle en stimulant une partie du cerveau précise. Et ceux qui ont essayé de le faire, les neurochirurgiens qui, à un moment, se sont dit « on va trouver le centre de l'excitation sexuelle », en fait, n'ont jamais réussi vraiment à le trouver. Parce qu'en fait, on ne peut pas en trouver un seul.
Une question là, puis une là-haut. Levez-vous, madame, s'il vous plaît.
J'ai une question qui est assez large, c'est la question de l'objet de ce qui est observé. Qu'est-ce qui est observé dans ce type d'observation comportementale? Et ça, depuis le début qu'on a des conférences sur le cerveau, c'est une question qui reste toujours un petit peu en bascule. Qu'est-ce qui détermine quoi? Le comportement détermine l'excitation cervicale, le cerveau détermine l'activité des hommes. Voilà. Alors, je trouve qu'ici, on atteint vraiment une limite où ça devient dangereux de ne pas régler cette question préalablement. D'abord, vous avez un petit groupe de jeunes gens. Vous avez donné un certain nombre de déterminations. Vous n'avez pas parlé de race parce qu'il n'y en a pas. D'accord, ça, c'est normal. L'âge, vous l'avez dit rapidement. L'hétérosexualité... Bon, qu'est-ce que ça supprime dans le type d'observation qu'on pourrait faire? On ne sait pas. Mais moi, je pense que ça devient grave quand on dit « il manque les femmes ». Alors du coup, on va dire on va trouver une différence entre la sexualité féminine et masculine, alors que je pense que sur ce terrain-là, on est obligé de faire des observations qui sont des observations qui sont socio-culturelles, très, 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 très différenciés, à mon avis. J'ai vu, par exemple, la façon dont les jeunes peuls, dans le peuple peul, s'exhibent, les jeunes mâles, devant les femmes. Je ne sais pas, les femmes peules, mais moi, mes inhibiteurs visuels craquent, là. Bon, parce qu'ils se mettent ils se donnent en spectacle, et ça fait partie de leur culture. Ils se maquillent, ils s'exhibent, ils bougent, etc.
Je crois qu'on a compris le sens de ma question, merci.
Non, le sens de ma question, excusez-moi. Le sens de ma question, c'est celui-là, c'est de dire comment on va ensuite rendre compte des résultats d'observation qui sont très fines, très ponctuelles, et ne pas créer des illusions idéologiques là, sur le fait qu'on parle de la sexualité masculine ou de la sexualité féminine. Être très prudent sur la diffusion de ce type d'informations où il y aurait un cerveau féminin. Et je pense aussi que sur l'observation de la sexualité féminine, on est tellement en retard que je ne sais même pas quels seraient vos capteurs qui permettraient de savoir quelle est l'excitation sexuelle de la femme. J'ai vu les titres de vos ouvrages, c'est « La femme et le nourrisson » et « La sexualité masculine ». Sur la sexualité féminine, je pense qu'on n'est même pas capable de mettre au point un véritable système d'observation.
Bah, merci.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas dit qu'il manquait la sexualité féminine. On m'a posé une question sur la sexualité féminine. Moi, j'ai simplement répondu que je n'avais pas, pour l'instant, fait d'études pour des raisons, d'une part, scientifiques et d'autre part, pour des raisons de méthode. Donc, je n'ai pas pu inventer quoi que ce soit. L'une des raisons, je pense, effectivement, c'est que c'est plus difficile, en particulier, d'étudier la sexualité féminine, que ça demande une équipe un peu différente. Il faut aussi qu'il y ait des femmes plus dans l'équipe. Il faut faire tout un travail important, je suis d'accord. Donc, j'ai simplement pensé qu'il était, je dirais honnête scientifiquement, de rapporter l'étude faite par des collègues. Et bon, cette étude a été faite, on ne peut pas ne pas la donner. Sur l'aspect socioculturel, moi je crois que les études que je fais, elles ne sont pas destinées à, comment dirais-je, à critiquer les abords socioculturels. Je pense que les abords socioculturels sont aussi importants, peut-être même plus importants. Pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, de compétition entre un aspect, disons, qui serait socioculturel et puis un aspect qui serait l'étude des aspects cérébraux. Je crois que le grand danger, si vous voulez, c'est de vouloir cloisonner les choses, c'est-à-dire de dire, il ne faut pas étudier les choses d'un point de vue... Parce que je connais des gens comme ça, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, votre intervention me fait penser, mais ce n'est peut-être pas votre cas, hein, mais ça me fait penser à un collègue qui ne peut pas entendre, qui a un cerveau, et que comme si vous voulez, c'était une sorte de critique d'un abord sociologique. Ou je crois que les progrès des connaissances viendront d'un travail d'équipe où des psychosociologues voudront bien travailler avec des psychologues et avec des neurobiologistes. Et moi, je crois franchement que si mon étude là a marché, c'est justement parce que j'ai une formation en sciences humaines au départ et qu'ensuite j'ai une formation en neurobiologie. Pourquoi ? Parce que la formation en psychologie m'a permis tout simplement d'aménager l'étude d'une façon telle que les sujets se sont sentis bien. Parce que l'étude, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport sociologique, hein. Moi, en tant que chercheur, je rencontre un sujet de la société civile qui est un volontaire saint. Donc j'ai clairement conscience que le rapport que j'établis avec lui au départ, c'est un rapport social. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, j'ai fait le maximum possible pour qu'il se sente respecté et pas pris comme un cobaye. Donc la dimension sociologique est importante, elle est prise en compte, mais je crois qu'il ne faut absolument pas qu'elle vienne censurer d'autres aspects qui, au contraire, en fait, viennent, je crois, nourrir les dimensions sociologiques en leur donnant, si vous voulez, un contexte, en leur donnant un contexte qui est le fait que nous sommes aussi des êtres de chair qui avons un cerveau.
Merci. Une toute dernière, et j'espère qu'elle sera rapide.
Bonjour. Je voulais vous demander concrètement si les études que vous avez faites mènent à quelque chose dans le domaine médical pour soigner d'éventuels troubles du désir, troubles de l'érection, voire des comportements de violeurs, des comportements sexuels anormaux, etc. Si ça a des conséquences dans la pratique médicale.
Merci beaucoup, parce que c'est une question qui est très importante. Ben, c'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter la fin. C'est-à-dire donc les images que l'on obtient chez les personnes qui n'ont plus de désir sexuel ou qui en ressentent extrêmement peu. Les personnes qui s'occupent donc de cette pathologie-là sont très souvent découragées parce que ce sont des pathologies qui semblent, comment dirais-je, très difficiles à soigner. Souvent, on a beaucoup de difficultés à permettre à ces sujets de retrouver leur désir, parce que souvent, ils ont eu un désir avant. Alors, ce que je trouve assez intéressant, si vous voulez, c'est qu'on ait trouvé que dans le cerveau de ces personnes, face à des images, il n'y avait pas simplement un déficit, une sorte de diminution d'une fonction, mais qu'il y avait aussi une augmentation. En fait, on est même plus impressionné par un grand nombre de régions qui semblent finalement plus actives chez ces sujets-là que chez les sujets qui ne présentent pas ce trouble. Parce qu'à partir du moment où on a ce résultat-là, ça veut dire qu'au fond, on peut considérer ça plutôt comme un trouble de type inhibiteur. Et un psychothérapeute est beaucoup plus à l'aise pour aider quelqu'un à surmonter une inhibition que pour créer un désir là où il n'y en aurait pas. Donc moi, je personnellement, je vis cette étude, bon, qui est très préliminaire, comme une source d'encouragement potentiel. Il faudra beaucoup travailler ces résultats, qui sont des premiers résultats, mais comme une source d'encouragement potentiel à un abord psychothérapique. D'ailleurs, vous voyez qu'en fait, loin de me diriger finalement vers un abord chimiothérapique, pharmacologique, je considère plutôt que ces études biologiques, en l'occurrence en tout cas, me feraient, comment dirais-je, encourager un abord psychothérapique.
Docteur Stoleru, je vous remercie.